Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous. Les portes du club s'ouvrent comme chaque mercredi, les 18h. On est heureux de vous accueillir. Heureux de vous accueillir avec mon comparse Arnaud Magnier qui est avec moi. Salut
Bonjour,
Arnaud.
bonsoir tout le monde.
Seul chroniqueur qui a aussi une actualité dans cette émission, on va en reparler tout à l'heure. Une actualité à venir dans quelques mois, puisqu'il va sortir un livre, ce monsieur. Il est occupé en ce moment, évidemment. On va en reparler dans un instant, d'ailleurs. On va en reparler. Mais nos invités, on avait envie de faire un focus. L'été arrive, évidemment, vous allez avoir envie de vous aérer, de vous changer les idées, de vous amuser surtout. Les parcs d'attractions sont là pour ça. Et c'est vrai que les parcs d'attractions renvoient toujours évidemment à cet esprit d'enfant que nous aimons tant. Et on va se plonger dans ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, mais aussi dans ce qui se faisait beaucoup hier. On a retrouvé des petites pépites en termes de parcs d'attractions. Ça va vous rappeler beaucoup de choses. Et pour ça, on s'est dit, il faut faire venir quelqu'un qui connaît le sujet. Il a lancé déjà il y a 4 ans. 4 ans, c'est ça?
3 ans.
3 ans, Parcs et Loisirs Magazine. C'est évidemment quelqu'un que vous connaissez bien chez VL, puisqu'il a animé pendant très longtemps un éclair de guénic qu'il a repris d'ailleurs et vous retrouvez sur les plateformes de téléchargement en ce moment, avec de nombreux invités. Maxime Guénic, je suis ravi de t'accueillir. Merci, mon cher, de faire un petit passage.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
Ça va?
Ouais, écoutez, on est à plein dans la nostalgie, hein, de revenir ici sur ce plateau.
C'est vraiment
Ah
rétro.
ouais.
C'est vraiment rétro. Et puis on va parler par l'attraction parce que. Vous allez voir que ce monsieur, il est très occupé, il a un métier très difficile. Il revient des États-Unis où il a découvert le nouveau parc d'attractions des studios Universal, Epic
Universe.
Universe. On va en reparler dans un instant. On a des petites images à montrer. À tes côtés, une jeune artiste qu'on a découvert cette année dans The Voice. Elle a passé brillamment les auditions à l'aveugle et malheureusement, le groupe. Le Squid Game de The Voice. Elle a fait partie des nombreuses pertes, mais on avait envie de la recevoir parce que vous allez voir, c'est une jeune femme extrêmement talentueuse et on avait envie de pouvoir la mettre en avant, comme on le fait régulièrement dans cette émission et dans la loi des séries, de mettre en avant les candidats de The Voice et de la Starac qu'on aime beaucoup. Lisa Stanway qui est avec nous. Ça va,
Très
je l'ai bien dit, c'est très bien dit. Tu es chez toi, n'hésite pas à intervenir. T'es parc d'attraction, toi, ou pas d'ailleurs? Tu en fais beaucoup?
Moi, c'est ma phobie, c'est vraiment.
C'est vrai?
Ça commence bien.
Les gros manèges, les.
J'en ai fait, mais j'avoue que je reste au stade.
Carrousel.
Ceux des enfants.
Les petits manèges en chevaux
de
bois.
Même eux, il y en a qui m'ont traumatisé.
Donc le train de la mine à Disney, non?
Impossible.
Impossible!
Je pense que là, je fais un arrêt cardiaque.
Eh ben écoute, on va te montrer pire que ça. Tu
Allez.
Vas voir avec Timon Park, toi, t'aimes bien?
Bah écoute, oui, je vais dire oui pour équilibrer, mais pas, je suis pas très client non plus, j'ai un peu la trouille aussi.
Ah, elle se sent moins seule, Lisa, comme ça, c'est très bien.
Il y a même ça, il y a des spectacles, il y a une thématisation, il y a des décors,
voilà.
Il y a une vie.
Il y a une vie en dehors des parcs d'attractions, ou dans les parcs d'attractions.
Dans les parcs, mais hors attractions.
Et hors attractions,
à
évidemment. On va en reparler dans un instant. Parcs et Loisirs Magazine, le numéro 13, va arriver justement le 12 juin. C'est bien ça,
c'est ça.
Avec évidemment notamment Epic Universe. On va en reparler dans un instant. Mais je le disais, on fait toujours. Appel à la nostalgie dans cette émission, c'est aussi notre amour pour ces programmes qui nous ont tant plu. Et je le disais, notre ami Arnaud a une actualité. Et on va le découvrir au travers d'un générique, parce qu'on aime bien les
Allez.
Génériques dans cette émission. Alors là, ça renvoie clairement dans les années 80, donc autant vous dire que j'en connais une autour de cette table qui va avoir l'impression d'être dans Rendez-vous en Terre Inconnue, sans Frédéric Lopez et sans le décalage d'horaire. Voici, c'est un dessin animé des années 80, peut-être que Max l'a connu, on va voir ça. Regardons.
Voici l'histoire d'un ourson en peluche tout à fait ordinaire. Mais sur la chaîne de fabrication, on lui découvrit un défaut. Et il fut jeté au rebut comme un vieux morceau de chiffon. Il se retrouva dans une pièce toute noire. C'est alors que, venu de l'espace, un drôle de bonhomme lui donna la vie avec de la poussière cosmique. Puis il l'emmena dans un nuage magique, où la bonne fée nature, à son tour, lui donna des pouvoirs surnaturels. Et depuis, notre petit ourson devint Super Terre.
Et voilà. Et comme ça, on redécouvre, comme ça,
plein
le petit
souvenirs,
logo mais... de Au pays de Croque Vacances, qui est le livre que tu vas sortir aux éditions Pulse
oui.
dans quelques mois. On va en reparler tout à l'heure. On a une autre petite publicité à
D'accord.
mettre en avant.
Avec
mais
plaisir.
Ça va, ça se passe bien.
Tout
la
se passe
rédaction
bien.
Est en train de.
Oui, ah oui, ça, on travaille comme pas possible. Et puis, il y a déjà plein de retours avec le lancement de la page Facebook
ouais.
du même nom, Au pays de Croque Vacances. Je vous invite à y
à aller,
aller
c'est...
à cliquer, à liker, voilà, follower. Non, ça, on va arrêter
non,
là. Voilà. Non, mais c'est tout mignon. Et puis, Super Ted, effectivement, c'est un des dessins certains animés phares de l'émission.
Il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes.
Et puis l'histoire est mignonne. C'est, le créateur est un Gallois, donc du pays de Galles, et qui a tenu à faire ce dessin
Mike
animé.
Young, c'est ça.
Exactement, et qui a voulu faire ce dessin animé en gallois, donc pas en anglais. Et après, ça a été traduit en anglais. Et l'histoire est mignonne, c'est qu'il s'était mis avec une dame qui avait déjà un enfant, et cet enfant faisait des cauchemars. Et tous les soirs, il s'est pris l'idée de mettre une cape à l'ourson et lui raconter des trucs. Et en fait, le gamin n'a plus fait de cauchemars. Et là, on a parlé à la maîtresse, à l'école, en disant bah, « Moi, c'est Super Ted. » En anglais, Teddy, c'est Teddy Bear. C'est un ourson, donc il avait le Super Ted. Et tout le monde l'a encouragé à écrire des histoires. Et en fait, il y en a eu des centaines en livres. Et ça a été adapté en dessin animé.
Exactement, qu'on a vu dans les années 80.
Ouais.
Et qui reste effectivement une petite madeleine. Voilà, on voulait commencer cette émission comme on le fait régulièrement, avec des génériques. Mais on va rentrer dans le vif du sujet avec notre première partie consacrée justement à la folie des parcs d'attractions. On a l'impression qu'il y en a plein. Disney qui est en train de construire un nouveau secteur. Les studios Universal qui débarquent à Londres à partir de 2031, si je ne me trompe
Exactement,
pas.
Ouais.
Epic Universe, donc, qui vient de débarquer, qui a l'air d'être dingue, dingue. T'as choisi le bon timing pour sortir ce magazine.
Oui, quand j'ai lancé le magazine, c'était juste après la sortie du Covid, je me suis dit que les gens avaient envie de ressortir, de vivre des expériences. Et puis, ça coïncidait avec les 30 ans de Disneyland Paris, qui est quand même le premier parc à thème français, qui a un peu révolutionné le secteur, qui a été une vraie référence et qui a un peu boosté l'univers des loisirs. Donc, je l'ai sorti. Je suis parti vraiment d'une page blanche. Je me rappelle, hein, en janvier 2017, j'ouvre mon MacBook, j'ai une page blanche. Par où je commence? Donc, j'ai fait de la veille. J'ai regardé ce qui se passait, ça n'existait pas, hein, de magazines papier tangibles qu'on puisse aller acheter dans un marchand de presse.
C'était plutôt des magazines de voyage qui se...
Oui, c'est ça, exactement, des magazines de voyage, même des... Vous avez aussi des magazines généralistes qui traitent, mais de sujets très très spécifiques sur les parcs, mais pas de choses vraiment spécialisées. Je me suis lancé là-dedans vraiment avec 0 euro de budget, il faut le dire, quasiment 0 euro. Et j'ai mis mon énergie au service de la création. J'ai été voir des imprimeurs, j'ai été voir des journalistes, j'ai été voir des parcs, j'ai essayé de me faire connaître un peu, j'ai fait un peu de télévision. Donc, c'était plus facile
Ça
pour
a
avoir
aidé.
L'accès,
Ça aide,
le contact.
Oui, ouais.
Et puis, donc, 6 mois après, en mai 2022, je lançais le premier magazine, on était à 50 000 exemplaires dans plus de 3 000 points de vente en France. Ouais.
Et résultat, 3 ans plus tard, ce monsieur énerve ses communautés en postant des vidéos du monde entier. Regardez, on n'a pas résisté à l'idée de vous emmener avec lui sur ses traces. C'était sur son compte Insta, il vous emmenait à la découverte de Epic Universe. Regardez.
Et c'est parti pour la soirée d'inauguration de Epic Universe.
Voilà pour ce petit
reportage.
Alors
ça, c'est vraiment l'entrée de la soirée d'inauguration Epic Universe. Hein. On le rappelle, c'est le troisième parc Universal en Floride. C'est 25 ans qu'il n'y avait pas eu un aussi grand parc à thème qui a été financé à l'ordre de 8 milliards de dollars. C'est juste énorme, avec
c'est
des
énorme.
Landes Harry Potter, des landes Super Mario, Dragons, les monstres aussi, Frankenstein, Dracula, dans des zones thématiques hyper thématisées et avec une qualité de traitement d'opérationnel vraiment de très très haut niveau. D'autant que le parc a été en préouverture quelques temps pour qu'il se rôde, parce qu'on ne lance pas des attractions comme ça. Et c'est là vraiment la dernière technologie en manière des attractions. Le parc a été pensé il y a 5 ans, il a mis 5-6 ans pour être construit. Et aujourd'hui, on a ce qui se fait de meilleur, des dark rides au carrousel hyper sophistiqué, au roller coaster,
donc
avec un souci du détail.
Il y en a pour ceux qui ont le cœur accroché, et puis il y en a pour Lisa et Arnaud.
Il y a de tout, il y a vraiment de tout. Ouais. Et puis même se promener, d'être dans l'univers quand vous rentrez dans le ministère de la magie d'Harry Potter, vous êtes dans les boulevards Haussmann avec un souci du détail qui est quand même hallucinant. Les vitrines sont interactives, vous pouvez acheter des baguettes et puis faire bouger des éléments de décor. Et à l'intérieur, vous avez une attraction qui s'appelle le ministère de la magie. Vous rentrez dans un métro, un vrai métro, et vous avez l'impression, lorsque vous rentrez dans la bouche du métro, d'être en sous-sol, alors que vous ne l'êtes pas du tout en vrai. Et en sortant de l'attraction, je me suis dit, waouh, on a passé une autre dimension, il y a un truc que je n'ai jamais vécu. C'est un mélange entre Star Tour, la tour de la terreur, et l'attraction d'Harry Potter en Floride en version 2.0. Mmh. Dingue.
Bon, bah voilà, ça, il faut aller voir. Mais les studios Universal, ça reste une expérience magique. Moi, je l'ai fait une fois à celui de Los Angeles. Et c'est vrai que c'est assez magique de pénétrer dans ces décors. On va voir apparaître évidemment les couvertures de ce magazine, parce que c'est évidemment une aventure. Alors ça, c'est Epic Universe, évidemment. Mmh. Le Grand Parc, le logo du Grand Parc. On va voir ensuite arriver Parc et Loisirs Magazine, qui est une aventure entrepreneuriale vraiment dingue, parce que voilà, c'est... Ouais. C'est compliqué, c'est couillu de lancer un magazine de presse papier aujourd'hui, hein.
Bah ouais, tout le monde me disait, Maxime, lancer des magazines aujourd'hui en papier, c'est pas du tout à la mode. Sauf que, je me fais l'avocat du diable, bien sûr que ça fonctionne, ah, on le prouve. Deux, lorsque vous êtes hyper thématique, hyper spécialisé, il y aura toujours des collectionneurs, des gens vraiment intéressés pour avoir quelque chose. Et puis on est dans une époque de TikTok, d'Instagram où tout va très vite. On regarde Swipe. Reels, on regarde, oui, exactement. Et on regarde même 4-5 secondes, et puis on a déjà oublié la vidéo qu'on a vue une minute avant. Alors que là, vous voyez, bah, c'est tangible.
Et
vous
avec la jolie histoire, regardez, apportées aux couvertures, elles sont assez toujours stylisées. Là, c'est la magie de Noël, regardez. On en a des très très belles, celui-là devant toi.
La speakerine, vas-y.
Regardez, ouais. Tu fais très très bien la speakerine.
Et voilà. Là, des concept art, là ouais, ce sont des éditions. Mais le truc, c'est qu'on veut faire rêver. Et en faisant rêver, bah, les gens, ils achètent. C'est comme les bouquins, regardez. Les bouquins, ok, il y a des tablettes pour les liseuses.
Ah, moi, mais en vrai, dans les mains. Oui.
Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir quelque chose que vous avez entre les mains. Un parc d'attraction, ça se vit en live. Et ben, mon magazine, il se vit imprimé.
On l'a sous le bras et on va dans le parc d'attraction avec.
Et puis, on le collectionne. On est un peu dans une logique pop culture, carrément, avec de la couleur. Et à chacune des pages, que je fais bosser trois graphistes, bah, c'est une invitation au voyage, à l'immersion, à l'évasion.
Tu disais que tout à l'heure, quand tu as lancé le magazine, c'était les 30 ans de Disney. Bah moi, je vais vous proposer un petit document. Je vous ramène dans le temps. On est le parc Disney ouvre le 12 avril 1992. Je vous ramène le 11 avril 1992. On est en prime time, on est sur TF1. Et c'est le grand prime de lancement de ce qui s'appelait encore Euro Disney. Voici un petit extrait, regardez.
Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à Marne-la-Vallée. Vous ne rêvez pas, c'est bien le château de la Belle au Bois Dormant que vous présente maintenant Gilles Lamado sur ses images en direct. Une soirée tout à fait étonnante à laquelle vous allez suivre, à laquelle vous allez assister, que vous allez suivre jusqu'à 23h et nous sommes deux pour ce faire car il y a beaucoup de travail. David Hallyday, bonsoir.
Bonsoir Jean-Pierre, comment vas-tu?
Bah écoute, ça va très très bien. Je dois dire que nous sommes des privilégiés, mesdames, messieurs, David et moi, puisque depuis quelques jours déjà, nous évoluons dans ce parc qui n'a pas encore ouvert ses portes. Nous avons essayé absolument toutes les attractions, il faut bien le dire. Nous sommes reçus de hautes personnalités que vous êtes, mon cher David Hallyday.
Vous êtes trop aimable, Jean-Pierre.
N'ayons pas peur des mots.
Il faut aller sur l'intégralité de l'émission, elle est disponible sur YouTube.
Elle est incroyable, incroyable. Et en fait, sur le premier numéro, comme c'était les 30 ans, j'ai eu Jean-Pierre Foucault en interview pour nous parler un petit peu des dessous de ce grand opening qui était suivi par des millions de téléspectateurs. Ouais, c'était en Mondovision. Et au moment où il dit « Attention, Mondovision, on a les meilleures technologies !» Et là, coupure de faisceau, écran noir. Et c'est souvent sorti dans les bêtisiers dans les années 90.
Mais Disney, c'est 92. Mais en 1989, il y a un autre parc qui se lance, qui dure encore aujourd'hui, hein, puisqu'il en est à 36 ans d'existence. Et quoi de mieux pour faire la promotion de ce parc que de faire appel à son héros principal qui fait une allocution solennelle française-français. Regardez.
Française-français, le loisir avait jusqu'alors un héros, moi. Le loisir a désormais une capitale, le parc Astérix. Enfin, petits et grands de ce pays vont pouvoir s'amuser pendant toute une journée autour du village ancestral, la forêt et 18 hectares d'attractions et de spectacles uniques spécialement créés par nous, pour vous. Françaises et Français, merci.
Parc Astérix, du bonheur pour tous et surtout pour chacun. Autoroute 1, sortie Parc Astérix.
Ouais, 36, super 15, archive. Code Astérix, ouais. Elle est géniale.
Vraiment, c'est super.
Ben ouais, c'est génial parce qu'on se replonge dans cette ambiance-là et c'est vrai que c'était drôle de voir ces personnages apparaître à l'écran.
Ouais, hein. Puis
on
aimait
bien faire ça à l'époque.
Il y a la voix de Roger Carrel aussi, qui est la voix des dessins animés, donc voilà, on est à fond dedans, quoi.
Parc Astérix, qui est aujourd'hui le deuxième parc de France,
ouais.
Et qui ont un vrai plan d'investissement et c'est devenu un parc vraiment référence en matière de sensations. Je pense fort à toi.
Moi, je suis comme toi, c'est-à-dire que je suis à un moment donné arrivé au parc Astérix il y a des années avec le tonnerre de Zeus. Ouais. Qui est une espèce d'énorme attraction
en bois
avec un espèce de trou comme ça qui descend et tu te dis, moi je repère toujours un manège pour savoir si je peux m'y fier à la ceinture qui te le tient, tu sais,
ouais.
Et là je vois juste la barrière, je dis mais c'est pas possible, non mais c'est pareil. Et tu passes sous le manège et tu vois le bois qui vibre comme ça et tu dis et moi j'arrive en haut du précipice et là je sens que je décolle du siège, que je commence à décoller un peu mes fesses du siège, je dis ça va pas le faire, mais c'est trop tard pour reculer, c'est bien trop tard.
Ouais. Mais bon, c'est fait exprès. Et aujourd'hui, maintenant, vous avez des attaches.
C'est fait exprès, d'accord, enfin.
Sur des attractions avec des loopings, maintenant, on n'est plus nécessairement attaché comme ça, mais attaché au niveau du ventre. Et bon, croyez-moi, ça tient vraiment.
Oui,
et
oui.
Le moment où vous décollez vos fesses du siège, c'est un terme technique qui s'appelle les air times. C'est moments de suspension. Et c'est vrai que les parcs en sont vraiment friands.
Mais la grande révolution des parcs d'attractions, c'est quand même de se dire, je rentre quelque part et à partir du moment où j'ai payé mon entrée, je ne paye plus les manèges à l'intérieur, parce que c'est vrai que la France est un pays de forains. Avec les foires du trône et autres trucs, mais là tu rentres dans la foire du trône et tu peux te dire que tu te vends un bras pour payer parce qu'il y a plein de manèges et tu payes à chaque fois le manège.
C'est presque plus rentable d'aller dans un parc finalement, parce que au vu de tout ce que vous faites comme attraction, ça dépend. Avec
Disney,
la qualité,
ils ont bien augmenté les tarifs. Hein.
Ouais, oui, c'est vrai. C'est devenu un luxe pour certaines personnes. Parfois, certains se serrent la ceinture. Tu croisais une famille lors d'un point de presse au Puy du Fou et en fait, ils avaient pris un prêt d'assurance vie ou un truc dans le genre pour aller en Floride, pour aller en Floride, et ils étaient en train de le rembourser 5-6 ans après.
Ils ont pris l'assurance vie Tata Suzanne pour faire.
Et eux, ils n'ont pas osé à faire 5 heures de file d'attente pour faire l'attraction Harry Potter à l'époque qu'ils se lançaient.
Ouais, c'est dingue.
Comme quoi, il y a des vrais passionnés,
bah
et
oui,
c'est une passion au même titre que la chanson, que les jeux vidéo.
Absolument.
Quand on aime, on ne compte pas.
Quand on aime, on ne compte pas. Mais vous saviez-vous qu'avant le parc Astérix, il y avait un autre parc qui existait? Et on va se remémorer, alors là j'ai pas d'image parce que voilà, c'était plus compliqué, mais j'ai une chanson, la chanson de la parade, évidemment. Alors je vous emmène, on part de Marne-la-Vallée à Cergy-Pontoise, vous allez voir cette chanson, c'est la chanson de la parade de ce parc d'attractions que moi j'ai connu, qui était vraiment génial. Voici la chanson, écoutez, je pense que vous allez l'avoir, vous allez la détester parce que c'est à peu près aussi indictif dans la tête que le monde des poupées dans Disney, vous voyez. Regardez la parade de ce parc qui s'appelait donc Mirapolis. Mirapolis. Et voilà le géant Gargantua. Alors si vous connaissez Disney ou vous baladez dans la maison hantée avec un petit wagonnet, bah, c'était exactement pareil dans ce géant dans lequel on se baladait. 30 mètres de haut pour ce géant Gargantua. Carlos en était l'ambassadeur puisqu'il passait à l'époque dans le club Dorothée et chantait les chansons en lien avec le géant Gargantua. Et c'est vrai que ce parc était dingue parce que quand on le voyait de loin, ce géant Gargantua. Tu l'as connu toi ce parc ou pas?
Je l'ai pas connu, mais je m'en suis beaucoup intéressé parce que c'était l'un des premiers parcs à thème en France, juste avant Disneyland Paris, et c'était un vrai fiasco.
Ouais,
un fiasco total.
Voilà, avec ce train dans lequel on rentrait, cette bouche de dragon dans laquelle on rentrait pour faire des manèges, enfin, c'était génial.
Tu parlais des forains, les forains étaient très 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 jaloux de l'arrivée de Mirapolis parce qu'ils avaient eu des taxes, des avantages fiscaux et ils sont venus, ils l'ont revendiqué quelques années après, avoir, disons, dilapidé l'énergie de ce parc en coupant l'électricité, en créant de vrais soucis. C'était dans les forains qui étaient très jaloux des avantages fiscaux de Mirapolis. Et ensuite, Marcel Campion a racheté le fonds pour relancer Mirapolis qui ne fonctionnait absolument pas. Donc ils ont baissé les prix, mais il n'y avait pas cette féerie et puis il n'y avait pas encore cette culture du parc d'attractions que Disney a vraiment insufflé de part de des licences tellement connues et dont l'émotion est le fer de lance.
Oui, parce que les États-Unis, ils avaient l'habitude des parcs d'attractions depuis très longtemps.
Mais bah, si en fait, le premier parc à thème au monde, c'est Disneyland Resort en Californie, créé par Walt Disney lui-même. Il a 70 ans cette année. Donc ça fait 70 ans que le parc à thème est vraiment développé.
Et ça continue, hein. Il y en a maintenant dans tous les pays du monde. Il y en a en Floride, en Chine, je crois.
En Asie. Ouais, c'est ça. Et bientôt un en Moyen-Orient, à Abu Dhabi, à Disneyland Abu Dhabi.
Ça n'arrête pas.
En France, on en a eu un quand même dans les années 60 par Jean Richard, qui était donc le Maigret, qui s'appelait la Vallée des Peaux Rouges.
Tout à fait.
Et qui recréait une sorte de Far West dans l'Oise.
Ça s'appelle, mais je crois que ça existe. Je sais pas si ça existe pas. Il y a la mer de sable et
Herbe. C'est ça.
C'est le parc d'Amenonville et la mer des sables. Et puis c'était la Vallée des Peaux Rouges.
Ah, c'est génial.
Donc il y avait un saloon, un western, un live avec des attaques d'Indiens.
Il y avait des animaux aussi qu'on pouvait voir.
Il y avait des Indiens qui terrifiaient les visiteurs parce qu'ils arrivaient et leur but c'était d'attaquer et de faire peur, quoi. Donc ils chopaient des gens au lasso. Et ils les traînaient pas par terre, mais bon voilà, il y a eu tout un mythe
génial.
Autour
moi,
de ça.
J'ai connu, quand j'étais gamin, c'était formidable de participer à la mer de sable, franchement.
Ils vont relancer ce spectacle, la mer de sable, qui est dans une grosse phase d'expansion, qui vient de lancer un wild coaster, wild buffalo, c'est un coaster en bois, et c'est situé juste un peu au-dessus d'Astérix, voilà.
Excellent.
Tu vas peut-être pouvoir y aller. Non, toujours pas.
Pour chanter peut-être.
Pour chanter, parce qu'elle chante super bien, vous allez voir ça tout à l'heure. Puisqu'on parle de chanter, je résiste pas à la tentation puisque tu es là, Maxime, on va voir apparaître une affiche. Parce que je crois que ça va reprendre.
Ouais, ça reprend.
Le Disney concert.
Disney en concert, on reprend les routes pour une trentaine de zéniths à travers la France. J'ai la chance de présenter ce spectacle depuis 3-4 ans.
C'est pas mal.
Et en fait, on est 80 musiciens sur scène, orchestre symphonique. On peut vous annoncer, il y aura donc les voix de Bayana sur Escalix, les voix de La Reine des Neiges 2, Emilou Holmes et
évidemment
Charlotte Hervieux. Voilà, et c'est tout ça dans une mouvance Disney avec un écran géant qui vient se synchroniser au medley et tout ça. Et c'est un super show en live. C'est vraiment du vrai live et des danseurs, bien sûr, sur scène.
Ta chanson préférée de Disney, c'est quoi ?
Le Roi Lion.
Ah, laquelle ?
La principale, L'histoire de la vie.
L'histoire de la vie, ouais.
Avec, comment elle s'appelle, cette chanteuse formidable ?
Debbie Davis,
qu'on a découvert pour la première fois dans Incroyable Talent, en fait.
Sur Disney en concert, génial. On termine toujours par Le Roi Lion, et je peux vous assurer, quand on a fait plus de 100 shows ces dernières années, on a toujours une standing ovation à la fin. Est très très nourri parce qu'on termine par Le Roi Lion, par un espèce de gros medley, gros plan en séquence sur ce show. Et puis le Hakuna Matata est très très populaire. En fait, vous avez trois gros trucs qui cartonnent. Bon, Bayana, ça cartonne. La Reine des Neiges, ça cartonne. Et Le Roi Lion est complètement dingue. Et en parlant du Roi Lion, 30 ans après la sortie du dessin animé, Disneyland s'est dit, ben pourquoi on ne lancerait pas un Land Roi Lion ? Et donc, pour la première fois en France, Disneyland va lancer sa zone Roi Lion avec un Splash Quester, les bûches, vous voyez, les bûches.
Ouais, c'est exactement ça.
Donc, il y aura la zone Reine des Neiges qui va ouvrir, et quelques années après, vers 2028-2029, le Land Roi Lion.
On attend ça avec impatience. Parce qu'il y aura un Land Reine des Neiges qui, là, à mon avis, va être pris d'assaut par tous les enfants et détester les parents, parce que voilà, c'est...
Non, je suis pas parent, mais je déteste aussi.
Alors, je t'adore, le Roi Lion, toi, c'est ton...
Ah ouais, c'est le meilleur Disney.
C'est l'histoire de la vie. Tu nous ferais un petit bout, là ? Tu te sens
un petit bout, là ? Oh là,
allez,
là.
Oh, attends.
C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel. C'est l'histoire... L'histoire de la vie.
Ah, c'est pas mal du tout, bravo.
C'est bien.
Eh, bravo, Lisa. Non, mais c'est... Mais non.
Fallait prévenir, hein.
Ah bah non, j'aime bien comme ça prendre.
J'ai révisé le texte. Je...
Non, mais c'est très bien, tu l'as fait en version courte, c'est parfait. C'est nickel. Merci beaucoup, Lisa. On va t'entendre dans un instant. On a des petites... des petites surprises aussi, évidemment. Je rappelle donc, hein, ne ratez pas la sortie du nouveau Parcs et Loisirs Magazine. Vous n'aurez plus l'occasion de dire je m'ennuie, parce que vous saurez quoi faire.
Avec le gros dossier sur Epic Universe, 12 pages, vraiment, on vous y raconte les tips. On a vraiment testé tout le produit, les restaurants, les attractions, les boutiques aussi. Ouais. Gros dossier aussi sur World Premiere, c'est la séquence d'entrée du deuxième parc Walt Disney Studios qui va être baptisé Disney Adventure World très prochainement à Paris, ouais, à côté du deuxième parc à Disneyland de Paris, avec l'interview des Imagineers, des gens qui créent, donc c'est super passionnant. On a un focus aussi sur les 50 ans de Walibi Belgium, et puis plein de surprises à l'intérieur.
Un boulot qui est terrifiant, je sais pas comment tu fais pour t'en sortir, mon pauvre Maxime. Plongez dans ce magazine, vous saurez quoi faire cet été. À la fin de cette émission, on va parler jeux vidéo avec Arnaud, parce qu'il nous a ramené encore des petites pépites, et comme on aime beaucoup, comme il sait allumer ce décor et imaginer ce décor. Mais pour vous faire teaser, regardez les vieilles pubs de jeux vidéo. On la tease maintenant avant de se retrouver tout à l'heure. Regardez à quoi ça ressemblait la publicité quand voilà, il n'y avait pas les mêmes moyens. Regardez.
Les jeux vidéo vous emmènent dans un monde imaginaire, fantastique et plein d'aventures. CBS Electronics vous emmène au cœur du jeu avec Donkey Kong. Sauvez votre fiancé. Sautez par-dessus des tonneaux. Évitez les meurtrières boules de feu ou coupez-leur la route en faisant sauter les rivets. Ou encore, sautez d'un ascenseur à l'autre en prenant garde de ne pas perdre l'équilibre. CBS Electronics, c'est un ordinateur de jeu et des cassettes qui vous emmènent au cœur du jeu. CBS Electronics.
Comme quoi, les jeux vidéo, ils ont bien changé. Hein.
Tout en promo, non, pas tant
quand
que
on
ça,
pense
ça.
À tous ces gens qui se précipitent pour acheter la Switch 2 qui vient de sortir. Je te demande pas si tes jeux vidéo.
Pas du tout.
Pas du tout.
Je l'étais avant.
Ah, c'est vrai ?
Ouais, quand j'étais plus jeune. Je suis très vieille.
Oui, c'est ça. Tu dis ça à des gens qui sont convaincus dans ce plateau que tu es très vieille. Lisa, donc pas trop jeux vidéo. Plutôt...
Si, j'étais à fond DS quand j'étais petite. Ah, Mario Kart. Bah,
c'est vachement bien.
Les Sims aussi sur la Play.
Évidemment.
Mais ouais, pas plus. Hein. Ouais.
C'est quoi qu'est-ce que t'aimes comme tes centres d'intérêt en dehors de la musique ? Il y a la moto qui prend une belle place.
Ouais.
Qu'est-ce que...
C'est tout, hein.
Ouais, c'est pas mal. La moto puis la musique,
ça prend
tout
mon temps, surtout.
Ça prend tout ton temps. On va voir que, évidemment, on va revenir évidemment sur cette aventure The Voice, et on va voir que voilà, tu continues effectivement de faire en sorte que cette aventure ne s'arrête pas sur cette aventure, justement, et que tu puisses exploser dans la musique. Comment tu décrirais ton univers avant qu'on rentre dans le détail dans un instant ?
Soul, R&B, pop.
Ouais. Ce qui est pas mal, ça fait donner un spectre qui est plutôt très large.
Petite mixture de.
Et pas mal au piano aussi, ça joue pas mal au piano.
Piano, basse, beaucoup aussi, et un petit peu de guitare.
Quand on va revenir tout à l'heure sur l'aventure The Voice, mais ça te fait quoi quand on est derrière cette porte avant qu'elle s'ouvre ?
Ah.
Moi j'ai vu à quoi ça ressemble et je me dis, mais comment ils font ?
Ouais.
Mais ça donne quoi ? On ressent quoi ?
C'est. Alors moi je redoutais ce moment. Derrière le mur, ça a l'air horrible. Et en fait, ça allait à ce moment-là parce que les techniciens m'ont fait rire à ce moment-là. Je sais pas, j'étais un peu ailleurs. J'avance, je me dis ok, tout va bien. Et c'est le moment où je suis assise et je me dis je vais commencer. Je me dis oh merde.
Il y a personne qui me regarde.
C'est ça y est, d'un coup ton cerveau il déconne un peu et comme je disais ouais, j'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo en fait. Parce que donc t'as vu le plateau comment il est, toutes ces couleurs rouges, ce truc un peu vaisseau spatial, je sais pas, tout est rond. Et j'avais l'impression de devenir folle, quoi. Vraiment, je me demandais où est-ce que je suis. Et justement, ça faisait jeu vidéo.
on est dans le thème, là.
Vraiment.
Sauf, moi, j'ai découvert un truc, c'est que le fameux bruit du buzzer, il est rajouté au montage, quoi. Il ne fait pas de bruit. Là, j'étais désemparé. Je dis, mais ça fait pas de bruit, c'est ridicule, là, sur le plateau. C'est rajouté après.
Ouais.
On appréhende quand même de savoir qui va se retourner.
Ouais. Enfin, moi, j'appréhendais surtout de pas me planter.
Ouais.
Avant tout. Je me disais surtout, moi, il faut que je sois fière de moi. Et après, le reste, c'est du bonus, quoi. Mais non, le buzzer, on l'entend pas, mais on entend les gens qui deviennent fous, donc on comprend. Et on lève la tête, on me dit, ok.
Ouais, on a vu sur cette audition à l'aveugle que t'étais très concentrée.
Ouais.
Et que, voilà, il fallait surtout pas perdre le fil de ce que t'avais à raconter.
J'étais épuisée. Je revenais de New York la veille. Donc j'étais complètement, j'étais sur une nuit blanche en fait, donc j'étais un peu...
Ça ne s'est pas vu.
Un peu sonné quoi, tu vois.
C'était au mois d'octobre dernier, hein.
Ouais.
On ne se rend pas compte, puis pour les talents qui passent les auditions, il faut se souvenir que les émissions ne sont pas enregistrées en émission. C'est-à-dire qu'en fait, on enregistre 6 heures d'audition à l'aveugle, et puis après on les répartit dans différentes émissions. Donc
ça
peut être très très long pour les talents d'attendre. Alors on ne verra pas évidemment l'audition, elle est disponible sur YouTube, propriété de TF1, mais on va y revenir, puis on va t'entendre un petit peu chanter aussi parce que tu fais des covers sur les réseaux. On va y revenir. Avant, effectivement, un petit espace publicitaire, toujours avec mon Arnaud, ouais. Pour remettre en avant cette promotion de ce livre qui sortira au mois d'octobre chez Pulse Éditions. Un petit générique d'une émission de télé, cette fois-ci emblématique. Regardez.
Vive le temps de...
Et voilà, on vous en a parlé déjà, mais voici...
C'était hyper joyeux à l'époque, hein.
C'était hyper joyeux.
Très coloré, très joyeux, très bondissant.
Je me posais la question, t'as connu cette émission ou pas, toi ?
Croque Vacances ? Non.
Pas du tout,
je connais les croque-messieurs, mais...
Toi, t'es plutôt une génération Club Do, toi.
Club Dorothée, carrément. Moi, je suis de 87, donc dans les années...
Pile l'année où ça s'est arrêté.
Et les minicums, et...
Voilà, oui, donc t'es né l'année où ça s'est arrêté, donc il y a peu de chance, effectivement, qu'il y ait une trace.
Avec le livre qui est une couverture projet, mais qu'on va peut-être voir apparaître. Regardez, voilà, elle va être très très belle, très colorée chez nos amis de Pulse Édition. Et ce sera hyper intéressant. Évidemment, on vous accompagne tout l'été avec le Club Croque l'été pour pénétrer dans les coulisses de cette émission. Voilà, je voulais faire une petite piqûre de rappel pour celles et ceux qui
plein de choses à dire,
auraient oublié. Oh, t'as beaucoup de choses à dire.
Oui, 240 pages, hein, donc ça fait un gros livre qui reprend toute l'aventure parce que la carrière de Claude Pirard représente à peu près de 1965 jusqu'à fin 90, début 2000. Donc il y a plein de choses à dire. Et Croque Vacances, c'est le noyau central, mais bien évidemment, plein de surprises. Tout l'univers des marionnettes, tout l'univers des trucages, des séries, des dessins animés qui ont été mis pour la première fois à l'antenne à l'époque sur TF1. Voilà, c'est plusieurs milliers d'heures d'antenne. C'est une très très, très très belle aventure aussi. Ouais. Ouais.
Alors, il y a le Club Dorothée, Croque Vacances, et moi je m'intéresse à toi, ta génération, c'était quoi? Tu regardais ta référence jeunesse, tes dessins animés, les.
Midi les Zouzous.
Oui,
voilà.
Ouais.
T'es fou peut-être?
Oui, aussi. C'est pour vous rappeler mieux que moi.
Ouais, c'est ça.
Ouais, il y avait Pokémon. Quoi? Il y avait Titeuf, il y avait Poil de Carotte, c'est encore plus vieux ça.
Ah ouais, c'est plus vieux. Ouais. C'est pas chanté par
Ophélie. J'ai connu ça, non? Je crois que c'est ma grand-mère qui avait enregistré.
Non, alors pardon, excuse-moi. Juste, on ne dit pas dans une émission, c'est ma grand-mère. Parce que nous, qui sommes de l'époque où on a connu ça, on se dit, ok, donc c'est sa grand-mère, donc là je pleure.
Non, mais vous aussi, c'est vos grands-parents qui.
Bien sûr. Bien sûr, merci, Lisa. On a bien fait de lui poser la question. Ça fait plaisir. Elle est sympa. Je savais qu'elle était sympa, Lisa Stenway. Tiens, on va l'entendre, Lisa. Hein, parce que Lisa, sur les réseaux sociaux, alors. La tendance, c'est les covers.
Ouais.
Mais Lisa ne fait pas que des covers. Lisa, elle se réapproprie des chansons en imaginant pourquoi pas une suite.
Ou une alternative. À l'histoire, ouais.
Alors évidemment, vous avez forcément entendu parler de ce tube d'une des chanteuses de la Starac, Elena. Et ben voilà, si Elena prend sa revanche, Lisa a imaginé ça. Regardez ce que ça donne, petit extrait Instagram de Lisa Stenway.
Mauvais garçon perd le fil. C'est plus moi le pantin. Un jour sur deux je lui dis non. Un jour sur deux je suis pire qu'une. Mauvais garçon n'est plus sûr. Je lui apprends le karma de nos jours. Il y comprend rien. Mon cœur tu vas pleurer. Oui c'est ton tour. Maintenant tu restes. Dis-moi pourquoi tu restes. Tu fais le gentil garçon. Quand y'a plus de je t'aime. Faut que j'arrête. J'arrête de faire mauvais garçon. Maintenant c'est toi qui sais.
Et voilà ce petit extrait. Comment tu crées ces alternatives?
Alors tout a commencé avec celle de Charlotte Cardin.
Ouais.
En fait il y avait une trend sur TikTok de chanter le troisième couplet ou de le réécrire. Enfin il y en avait quelques-uns qui avaient fait ça. Et c'est un pote qui m'en a parlé, qui me disait « Bon, allez, Lisa, faut que tu fasses des vidéos maintenant sur Insta et tout, parce que j'étais pas du tout présente en vrai avant. Je postais une fois tous les 4 mois et encore. Et jamais, en fait, face cam, posée dans ma chambre comme tout le monde fait et comme j'aurais dû faire bien avant. » Et il me disait « C'est l'occasion, fais-le. » Et il me dit « Par contre, si tu réécris un truc, fais un truc bien, quoi. » Donc, je commence à réécrire un petit couplet. Et je lui dis, ouais, t'en penses quoi? Et il me dit, mais Lisa, t'es hors sujet, là. Genre, c'est une chanson d'amour et toi, t'écris un truc hyper toxique et tout. Je me dis, ouais, mais ça me ressemble pas d'écrire un truc fleur bleue. J'ai pas envie de mentir, quoi, d'écrire un truc qui me ressemble pas. Et là, je lui dis, et si je faisais, et si Charlotte Cardin était toxique finalement? Et il me dit, ok, là, tu tiens un truc, vas-y, fais. Du coup, je l'ai fait et ça a plutôt plu. Je m'attendais pas du tout à 1 million de vues comme ça sur ma première vidéo TikTok. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas réessayer le même concept. Et j'aimais beaucoup la dernière chanson d'Elena. J'aimais beaucoup la basse aussi. Je me suis dit, ok, je vais un peu pimper la basse. Je vais réécrire un truc. J'ai direct été inspirée. Et donc voilà, maintenant je fais ça. La dernière, c'était sur Marguerite.
Ouais.
Et la prochaine, je dis pas, mais elle arrive bientôt.
Ah, on tease. Mais ce que je trouve génial, c'est que cette volonté que tu as, je l'entends pas mal dans des stories que tu peux publier, tout ça, c'est de casser cette image là. Parce qu'on va voir la photo de l'audition à l'aveugle de The Voice apparaître. Vous allez voir à quoi ça ressemble, cette audition à l'aveugle. Regardez, on est quand même dans la chanteuse. On imagine de piano bar, univers, grande belle robe et tout, ultra méga féminine. Et je te vois dans tes stories, dans tes chansons, dans tes trucs, dire il faut que je casse cette image-là. C'est important, c'est ça t'amuse de jouer avec ça?
En fait, c'est marrant parce que tous mes proches qui m'ont vu sur The Voice m'ont dit « Ah, c'est marrant, on dirait presque que t'es toute gentille.
» C'est pas le cas.
C'est ce que je leur ai répondu. Je me suis dit « Je pensais être cool, mais... » Non, mais c'est vrai que j'ai toujours eu ce petit côté garçon manqué, on va dire, avec la moto, la basse, etc. Et c'est vrai que dans mes prestations, quand je joue au piano-voix dans les palaces, etc., toujours en robe de soirée, c'est obligatoire. En réalité, moi, je m'en passerai. Je ne suis pas très robe de bal.
C'est vrai. Ouais. Plutôt perfecto et veste en cuir. Et
plutôt même jog, ouais. Cargo.
Ça marche pas dans les palaces.
Non, ça marche pas,
ça
dans,
marche
les
pas dans les palaces.
Mais j'aime beaucoup aussi les robes de soirée et tout, mais plus ponctuellement. Ce n'est pas mon style au quotidien.
Mais c'est vrai, quand on te voit et qu'on t'entend chanter, on te voit. Moi, quand je vais dans The Voice, t'as ce petit côté des chanteuses américaines et tout ça. C'est vrai, je trouve que c'est assez naturel. Et pourtant, parce que souvent, les chanteuses françaises, elles sont plutôt, en termes d'anglais, elles sont plutôt sur mon modèle, tu vois, avec un accent de merde. Et là, effectivement, l'anglais, tu l'as totalement. Et puis, le style aussi est très, très américaine, quoi. Donc, des origines
J'aimerais bien.
Non, même pas.
Mais c'est vrai que j'ai toujours été attirée par toute cette culture, surtout musicalement. J'ai toujours écouté Alicia Keys, Whitney Houston, tout ça. Donc, j'écoutais pas trop de français à part Amel Bent. Mais finalement, Amel Bent, ça a influencé beaucoup de la culture américaine. Et puis, je suis partie en Floride pendant 4 mois, du coup.
Toi aussi en Floride, alors.
Bah, décidément.
Mais la capitale des parcs.
Ce fameux Universal. D'ailleurs, je me rappelle, je voulais pas regretter, j'ai fait l'attraction d'Harry Potter. Parce que j'adore Harry Potter, je me dis, je vais le regretter. Allez, je prends sur moi. Je l'ai regretté. Mais en fait, je m'attendais pas au moment avec les Migales. Ouais. Il fallait me prévenir, il fallait mettre attention à Knopf. Là, par contre, moi j'ai peur des araignées, c'est horrible. Hein. Tu l'as fait du coup, toi
non,
aussi?
Non, je ne l'ai pas fait.
T'es sur un bras, t'es balancé de partout, t'as des écrans incrustés avec des vrais décors.
Ouais.
Et ça, tu voles sur un balai, c'est complètement dingue. Ça fait plus peur qu'un manoir hanté. Hein.
L'argent. Le manoir hanté, ça ne fait pas trop peur, ça.
Complètement.
Ouais.
Donc tu t'es éclaté en Floride alors?
Par contre c'était celui de Los Angeles.
De Los Angeles, oui, totalement, ouais.
Floride, je me suis éclatée sans grand mot. Non, c'était très dur.
Oh, c'était chiant en fait. J'essayais d'être sympa, mais enfin.
Non, c'était une expérience incroyable de chanter devant des Américains justement. Mais j'avoue que les conditions sur un bateau de croisière, il faut s'accrocher.
Ah ouais. Je comprends.
C'était l'armée quoi. Vraiment.
C'était mieux à New York?
Ah mais New York c'était mon rêve, j'ai fait mon vrai premier concert.
On regarde.
Allez.
Un petit extrait, regardez de ce que ça donne Lisa à New York. Quand je dis qu'il y a un petit truc vraiment, t'as pas l'air d'être un poisson hors de l'eau là quand t'es à New York, tu vois, ça le fait tout de suite.
Ah, franchement, c'était incroyable.
C'était où à New York?
C'était à Brooklyn.
Ah, pas mal aussi.
Ouais.
Ah, il y a une vraie tradition musicale aussi. Et moi, quand je t'ai vu dans The Voice, je me suis dit, mais en plus de bien chanter, t'as un peu un physique de comédienne aussi. Je me dis, elle pourrait jouer la comédie, merci. Ça pourrait être. Non, mais je sais pas, dans Tout pour la lumière ou des trucs comme ça, il pourrait t'appeler.
Ah,
tu vois. J'ai passé le casting, j'ai pas été pris. Merci de me le rappeler. Non,
j'ai jamais eu le courage de passer des.
Des castings de comédie ?
Ouais, enfin, disons que je me dis que ma priorité c'est la musique, donc je sais que c'est beaucoup de travail de passer des castings et tout. Mais si ça vient à moi un jour, oui, bien sûr.
Regarde Barbara Streisand aux États-Unis, elle fait les deux, elle chante, elle fait la comédie.
C'est sûr. Puis l'un peut aider l'autre aussi, donc. Ouais,
donc ne te ferme pas de porte.
Ah non, mais je ne les ferme pas.
Bon, alors c'est quoi le prochain EP, est-ce qu'il y a un EP qui va sortir, un disque, quelque chose, ou est-ce que c'est difficile?
Tout est prêt.
Ouais.
Il me manque plus que la bonne rencontre, on va dire. Mais toutes mes chansons sont prêtes.
Elle cherche les personnes adéquates pour faire enregistrer l'album.
Voilà, c'est
donc
ça.
Si vous nous regardez et que vous avez envie de l'aider, cette jeune artiste qu'on a nous remarqué indiscutablement dans The Voice, bah, appelez-nous, on fera suivre. Mais voilà, elle a besoin, les titres sont prêts. Il y en a combien de prêts?
On a 13.
Attends, c'est plus un EP là, c'est un album.
Ouais.
Vinyle, avec vinyle aussi, il faut ?
Ah, mon rêve.
Bon, vinyle CD, donc appelez-nous, on fait un package, on fait sûr à Lisa et on a vraiment envie que ça puisse, marcher. Piano aussi, basse, tout.
Il y a tout, ouais. Enfin, les maquettes sont faites et donc il me manque la personne pour finaliser les prods, quoi.
On croise les doigts. Franchement, tu le mérites et on espère vraiment que ça va vraiment marcher. Puis tu reviens nous voir quand l'album est sorti.
Allez.
Hein, on signe là. Non, mais c'est sympa, tes copains, ils ont raison, je veux le dire, t'es sympa, tu vois, t'as pas l'air comme ça, mais.
Non, je suis très sympa.
Oui, t'es très sympa, écoute, franchement. On arrive au terme de cette émission, mais on va finir avec mon cher Arnaud parce que on va peut-être vous donner envie de jouer à des jeux vidéo. Jeux vidéo, vous êtes prêts à remettre la manette et tout ça?
Ouais, carrément.
C'est énorme, hein, ce genre de truc. Une pub, tiens, pour se replonger dans l'ambiance, une autre pub, regardez. Ce que ça donne.
Les jeux vidéo vous emmènent dans un monde imaginaire, fantastique et plein d'aventures. CBS Electronics vous emmène au cœur du jeu. Avec Turbo, prenez le volant, partez, accélérez, doublez, ville, autoroute, attention, flaque d'huile, prudence, virage sans visibilité, désert, allez-y, attention, bord de mer, surveillez votre trajectoire, et c'est l'arrivée. CBS Electronics, c'est un ordinateur de jeu et des cassettes qui vous emmènent au cœur du jeu.
PlayStation n'a qu'à aller se rhabiller.
Moi, je trouve que ça n'a rien à voir. Je te sens un peu bas, mon nono.
Oui,
tu peux monter peut-être le fauteuil. J'ai l'impression
qu'il
s'enfonce dans le sol. Regardez, en fait, il est beaucoup plus grand qu'il ne le pensait.
1m93.
Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça?
Je tenais à porter un petit côté vintage, comme toujours, au club et à la loi des séries aussi, au passage. Et voici la console CBS ColecoVision qu'on a eu en France, et c'était une première console qu'on a appelée de deuxième génération, puisque il fallait insérer des cartouches dedans. Donc là, vous avez un florilège de tout ce qui s'est fait à l'époque, et cette console, elle est rigolote parce que donc je vous la présente comme ça, voilà. Donc elle tenait de cette façon.
On va voir passer des images de la. Il y a une console derrière des jeux. Vous allez voir à quoi ça ressemble.
Ouais, t'as une fiche là comme ça pour l'insérer dedans, clac. Et hop, ça se lançait à l'écran. Et puis les manettes étaient intégrées aussi dedans.
Ah, c'est génial.
Non, mais c'est top. Et on avait ce clavier pavé numérique qui permettait de choisir un ou deux joueurs. Là, derrière moi, vous avez des exemples de cultes de jeux vidéo. Alors bon, ça prête à sourire aujourd'hui, mais effectivement, mais à l'époque, c'était vraiment cultissime.
C'est génial, ça.
Coleco, c'est très rigolo comme histoire aussi. Le nom...
on dirait les designs des petits aliens... Les vaisseaux, là,
ah bah tu l'as dans la vidéo juste après, bien sûr. Et Coleco, c'est l'histoire est rigolote, c'est une société du Connecticut, Co c'est Connecticut, les c'est leather, c'est du cuir, et à la fin, Company, pour la société, et en fait c'était donc des fabricants de chaussures en cuir, et le gars au bout d'un moment il s'est dit bon, c'était dans les années 1930, il s'est dit bon, on va peut-être innover, alors ils ont fait des pièces de plastique moulées. Et on est venu donc les chercher en disant bah c'était l'émergence des jeux vidéo, des consoles, et on a dit tiens, est-ce que tu pourrais nous faire un truc comme ça, design sympa, facile à ranger, pas trop lourd, et voilà comment est né Coleco.
Et c'est sorti quand la première fois?
Alors c'est sorti en 82-83. Là c'est Frogger, c'est un grand classique de la grenouille qui doit pas se faire écraser en traversant la rue ou se faire bouffer par un...
Pardon, quand je vois ça, je me dis que c'est quand même dingue de se dire...
Tiens, voilà. Donc, ce dont tu parlais.
J'adorais ça, moi je jouais ça sur mon ordinateur avec une disquette qu'on mettait à l'intérieur.
Oui.
Mais c'est dingue de se dire ça, comment les jeux vidéo ont pris un essor et ont progressé en 40 ans.
C'est ça. Et l'argument de vente était innovant, quoi. C'était, il y a 128 couleurs. Vous vous rendez compte, 128 couleurs, c'est dingue. Qu'est-ce qu'on c'est une console 8 bits, donc ça mettait à mal toutes les consoles précédentes, comme notamment l'Atari 2600, qui était en ronce de noyer, là, vous savez, en bois, ou l'Intellivision. Et donc voilà, ça a donné le génie aussi de ColecoVision, de la CBS, c'était de s'associer dès le lancement, dès le début, à Nintendo, et ils ont lancé Donkey Kong, quoi. Donkey Kong.
Ah, Donkey Kong.
Et donc l'arrivée de Mario en France, c'est là-dedans, c'est le petit
Donkey Kong qui a son land dans des parcs Universal, Epic Universe. Il y a toujours des liens.
Tout est lié, voilà. Et puis
moi j'ai une question.
Vas-y, dis-moi.
Ça coûtait combien?
Alors, tu vas le voir aussi derrière moi. Alors, ça
coûtait. Le gros de l'animation.
C'est une très bonne question. Ça coûtait à l'époque en francs 1800 francs. C'était très cher. Ça fait un peu plus de 350 euros. Okay. Mais ça devait être beaucoup plus en termes de valeur par rapport à l'inflation. Et donc, c'était un vrai investissement. Mais la force de cette console, c'est qu'il y avait. On pouvait prolonger le jeu de façon assez hallucinante. Par exemple, vous aviez ce jeu, la Mousetrap, qui est devant moi là. Donc, tout était labellisé de la même façon. Vous avez vu, c'est les boîtes grises, boîtes grises en français.
Wow. Et
c'est le Rocky, j'en parle après. Et il y avait, on pouvait ranger derrière les petites machins comme ça que l'on pouvait. Je sais pas si on.
Regarde, voilà. Faire bien. Ouais, là, tu vois, 1290
Alors,
francs.
Alors celle-là est en promo, mais c'était un tout petit peu plus cher.
1290 francs
seulement.
Et 295 pour le modulateur, putain.
Ouais, voilà. Alors je vais expliquer tout ça. Voilà. Donc tu vois, on pouvait placer une petite fiche comme ça par-dessus pour rajouter de l'interactivité dans le jeu. Et puis après, ils se sont associés à des labels. Tu m'as piqué la boîte de Rocky. Voilà.
Et donc, il est là, tiens.
Voilà, montre-la.
On
pouvait acheter des contrôleurs comme ça, mais c'était... Imaginez les gamins de l'époque, on était tous dingues avec ce truc, parce que tu pouvais... Alors, ça fait des gants de boxe, quoi, et hop, on branchait au truc, et il y a les boutons à l'intérieur, toujours aux couleurs arc-en-ciel.
Et on faisait des matchs de boxe avec ça ?
Et ouais, tu pouvais jouer. Alors, bien sûr, on mettait pas deux manettes, parce que là, c'est joueur 1, joueur 2, voilà, tu l'as avec la pub, mais on pouvait jouer, donc, à être Rocky, et on bougeait comme ça, voilà.
Tu fous ça avec gueule, je vais te dire, tu t'en remets pas.
Non, on ne se tapait pas avec Alexandre. On agissait avec les... Je sais pas si on voit bien, mais il y a des boutons à l'intérieur. Et l'appréhension est fantastique, même pour un adulte, quoi. C'est encore top.
Elle a eu un succès commercial, cette console ?
Ouais, elle a eu un succès commercial. En revanche, elle a petit à petit perdu du terrain. Ils se sont un petit peu ratés aussi en voulant trop étendre la gamme. Ils ont lancé un ordinateur qui s'appelait l'ordinateur Adam, et qui a fini donc au paradis. Allez, on fait un petit jeu de mots. Et ça a mis un terme. En fait, ils ont investi trop d'argent là-dedans, et en 85, ça y est, c'était plié. D'accord. Mais il y a eu des centaines de jeux. Voilà. Il y a eu un volant pour jouer à Turbo, vous l'avez là sur la pub derrière vous. Pour être, on va essayer d'être un petit peu objectif. C'est vrai, c'est moche quand tu vois la pub, tu dis waouh, Star Wars, et puis bon, quand on a les premières images, on rigole. Mais à jouer, ça reste un souci de technicité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met plus l'accent sur la beauté des jeux, et c'est peut-être un peu moins difficile, tu vois. Là, il y avait pas de sauvegarde, il y avait pas de carte mémoire, il y avait pas de donc il fallait vraiment y aller, et si on perdait une vie, on recommençait soit au début, soit il fallait... on pouvait pas sauvegarder, donc si on jouait d'une semaine à l'autre, il fallait reprendre à zéro. Donc ça développait les réflexes, ça développait...
Moi déjà que je perds ma patience sur un jeu vidéo quand je passe pas le deuxième niveau, mais alors si je passe le dixième et qu'on me renvoie au premier, je pète un câble. Hein.
Mais ils ont eu ce succès de partenariat aussi, parce qu'il y a aussi cette trappe devant, là, après j'arrête d'en parler, qu'on pouvait soulever, et là on pouvait mettre un module qui permettait de brancher des consoles, notamment Atari, et donc ça multipliait la gamme, parce qu'on c'est un peu comme ce que fait PlayStation avec le, je crois que ça s'appelle du rétro gaming, si je dis pas de bêtises. On peut jouer par exemple au jeu PS3 ou PS4 sur la PS5 sur certains modèles, et donc là c'était un petit peu pareil, il y avait une extension comme ça qui fait que bon, on en avait pour son argent, et que c'était quand même familial. On pouvait jouer à deux, il y avait deux manettes en même temps, le volant, la pédale pour accélérer. J'ai pas tout apporté, Alexandre, parce que tu voulais jouer à la Turbo.
J'étais prêt à jouer à la Turbo, moi je voulais me mettre en volant, on est une fan de moto, alors au volant, là, ça serait régalé. Attends, il y avait des pédales ou pas?
Ouais, t'as une seule pédale pour accélérer, et puis ça fonctionnait vraiment. C'était pas du gadget, il y avait une vraie sensation. Ouais, t'avais un retour de force un petit peu dans le volant qui montrait la résistance dans les virages. Enfin, c'est dingo, quoi.
Voilà, et c'est authentique, ce qu'il amène là, c'est pas du truc refabriqué.
Ah non,
c'est
non.
Les gammes d'origine. Et question que Maxime aurait pu te poser, mais qu'on va te poser.
Vas-y.
Ça marche toujours?
Ouais, ça fonctionne toujours, bien sûr. C'est immortel, ce truc, parce que les consoles de ce type sont donc de deuxième génération. C'est-à-dire qu'on on insère une cartouche dedans, et le jeu est là, en fait.
Ça se détériore pas tant que ça.
Ça se détériore pas, voilà. Alors, il y a le truc typique de Nintendo, c'est on faisait ça. je m'éloigne des micros pour pas, mais on devait souffler dedans parce que parfois il y a des poussières, ça marche pas vraiment parce qu'en fait on rajoute de l'humidité avec le souffle, mais c'est encore pire. Et on l'insère, voilà. Le seul problème qu'on peut avoir aujourd'hui, si toutefois c'est un problème, c'est que c'était branché en prise Péritel, donc une prise qui n'existe plus sur les télés actuelles, et c'est
une
en
grosse
HDMI.
Prise un peu rectangulaire, voilà, avec des dents à l'intérieur,
avec plusieurs broches à l'intérieur qui faisaient donc la connexion du son et de l'image. Et mais bon, il y a des adaptateurs HDMI tout à fait possibles aujourd'hui, voilà, on peut encore y jouer.
Ça s'appelle la ColecoVision.
Ouais, ColecoVision.
CBS ColecoVision. Voilà. La boîte mon accent va, Lisa, ça va?
Correct.
Avec, voilà,
ah, j'avais oublié que... Ouais.
ils avaient cette force aussi de proposer plein de jeux différents, parce qu'il y avait des simulateurs de blackjack, de poker, du foot, il y a du pilotage, enfin, il y a vraiment plein de choses. Donc j'aime beaucoup cette console.
Ah ouais, non, c'est super. Ouais.
Et je voulais vous la présenter aujourd'hui. Voilà.
La CBS ColecoVision, ouais. 1290 francs.
En vente partout.
En vente partout, téléshopping. Vous pouvez faire le paiement en 4 fois sans frais. Merci mon Arnaud d'avoir ramené encore ces pépites. C'était un plaisir. Je rappelle, le magazine Parc et Loisirs Magazine, ça c'est l'ancien numéro, le numéro 12, le numéro 13, sort là, dans pas longtemps, le 12, dans tous les magasins. Allez-y, foncez, parce que c'est une vraie réussite, magazine presse-papier. On tient au magazine presse-papier, parce que c'est important toujours. Voilà. Et puis Lisa Stenway, qu'on adore et qu'on a envie de retrouver très très vite avec un album. Donc je rappelle, appelez. En même temps que vous passez commande pour la console, si vous êtes dans l'univers du son et que vous avez envie de l'accompagner, allez-y, vous ne le regretterez pas. Voilà, on avait
merci
envie vraiment de te recevoir. Merci d'être venu,
merci
Max.
Merci Alexandre, avec
c'était
plaisir.
Un grand plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Club. On changera d'univers, mais alors radicalement. On parlera de théâtre et on parlera de Serial Killer. Rien à voir. On parlera de la pièce Roberto Zucco, oui. Qui est un classique adapté d'un classique de la littérature, notamment. Merci à tous. Merci à vous deux d'avoir été là. Merci mon Rob à la réalisation. Merci. Et on se retrouve très vite. Les portes du club se referment et on se rouvre la semaine prochaine. Merci à tous.